m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission vespérale de Radio Courtoisie. C'est moi, Romaric Sangar, en effet, ce soir, qui anime cette émission à la place d'Arthur de Vatrigan, d'où les hésitations qu'il pourrait avoir et la surprise de notre public de découvrir une voix qu'il connaît parfois pour mes quelques chroniques, mais pas dans cette situation d'autorité que je vais tenter d'assumer avec le moins de fébrilité possible. Je vous rappelle que Restons Courtois est une émission de débat, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30, en partenariat avec les médias Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et nous-mêmes, c'est-à-dire le magazine L'Incorrect. Vous vous rappelez peut-être, chers auditeurs, la boutade du cinéaste Woody Allen qui déclarait « À chaque fois que j'écoute Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne ». Étant donné les thèmes au programme de cette émission, il paraissait naturel de l'intituler « Écouter Wagner et envahir l'Iran ». Ce qui est tout de même remarquablement ambitieux, vous le reconnaîtrez. Mais évidemment, c'est un programme que nous questionnerons avec nos invités. Est-il si juste, si nécessaire et si pertinent d'envahir l'Iran? Et où tout cela mènera l'Amérique de Donald Trump? Nous demanderons-nous en compagnie de Pierre Delauzin, ancien haut fonctionnaire, officier de l'Ordre du Saint-Sépulcre et brillant essayiste. N'y aurait-il pas, à bien écouter Wagner, également des influences bouddhistes chez le maître des Nibelungen, lesquelles nous pousseraient plutôt au non-agir qu'au bombardement préventif? C'est ce que nous essaierons de capter avec notre deuxième invité, Stéphane Giocanti, qui publie en ce printemps un roman insolite à ce sujet aux éditions de Flore. Pour m'accompagner dans cette campagne qui sera brève puisqu'elle est chronométrée, mais espérons-le, pleine d'exploits spectaculaires, un autre Richard de 16, celui-ci que nos auditeurs connaissent bien puisqu'il n'a pas besoin d'envahir une radio où il est chez lui, étant donné son titre de directeur de la rédaction de Radio Courtoisie et son talent légendaire, le Siegfried des ondes, le gardien de la dextérité des choses, Richard de 16, bonjour.
Bonjour Romaric.
Également avec nous, sa langue est aiguisée et son regard perce les brumes des événements courants. Le dragon pourrait être frappé sur son écu s'il était littéralement chevalier, mais rédacteur en chef adjoint de L'Incorrect, il est d'une autre manière et un micro lucifie, vous aurez reconnu Rémi Carlu. Bonjour.
Bonjour Romaric.
Avant que nous entrions dans la bataille, je vous rappelle que le numéro d'avril de L'Incorrect, avec Charles Alloncle, accusateur en couverture, Charles Alloncle, aujourd'hui triomphateur, n'est plus disponible en ligne, vu son succès, mais qu'on peut toujours le trouver en kiosque, du moins dans certains kiosques qui n'auraient pas été dévalisés. N'hésitez pas à chasser ce numéro comme un ultime œuf de Pâques. Je vous rappelle enfin, chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission et poser vos questions à nos invités par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courriel à courtoisie@rc.fr. Et maintenant, nous allons commencer dans des grandes questions avec notre invité Pierre Delauzin. Pierre Delauzin, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Vous avez effectué une brillante carrière dans la finance et les relations internationales pour finir chairman de l'Association internationale des professionnels du marché. Vous vous êtes également engagé dans plusieurs associations d'inspiration chrétienne et vous êtes d'ailleurs membre de l'Académie catholique dans la section économie et droit. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages sur la philosophie, la finance, la guerre et la foi, été décoré de la Légion d'honneur, mais surtout, vous êtes grand officier de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre et moi qui vénère la Sainte Couronne, c'est là une qualité qui me touche spécialement. Vous avez récemment publié chez Bolène « Ni règne de la loi, ni loi de la jungle, géostratégie et bien commun », un essai aussi subtil que percutant sur les réalités et les exigences de la géostratégie à une époque où malheureusement cette science redevient essentielle pour s'orienter dans un monde multipolaire et multiconflictuel alors que les pouvoirs régulateurs s'estompent. Avant de nous plonger avec vous dans ces sujets fascinants et éruptifs, nous allons cependant vous faire subir, cher Pierre Delauzin, car c'est la loi de l'émission, une petite rafale de questions.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Alors, Pierre Delauzin, quel pays l'écoute de Wagner vous donne-t-elle envie d'envahir?
Je n'ai pas envie d'envahir, à vrai dire, et je ne suis pas un passionné de Wagner. Mais je suis quand même étonné que Wagner donne envie d'envahir. Parce que Wagner, en fait, sous un côté tonitruant, montre une espèce de fragilité intérieure. Ce n'est pas, à mon avis, ce qui donne un sentiment de force, mais plutôt un sentiment d'exaltation. Et un exalté, a priori, n'est pas l'adversaire le plus crédible. Alors, quant à envahir, ben, à mon avis, ça n'a aucun intérêt, parce que envahir n'a d'intérêt que si vous pouvez arriver à avoir un résultat nettement meilleur, et a priori, c'est pas en agressant les gens que vous obtiendrez un résultat meilleur avec eux.
Très bien. Et vous avez... Merci pour cette réponse précise. Vous qui avez eu une si brillante carrière, quel est votre meilleur souvenir professionnel ?
C'est un peu paradoxal, c'est que j'ai dirigé une banque qui était cotée et qui s'était avérée être le deuxième sinistre bancaire français après le Crédit Lyonnais. En d'autres termes, une situation parfaitement désastreuse où j'étais l'équivalent bancaire ou financier de la femme de ménage qui vient nettoyer après ouais. une fête un peu exagérée. Et l'énorme avantage d'une telle situation où vous avez d'énormes difficultés à trouver de l'argent pour financer la banque, etc., c'est que vous êtes très libre, vous êtes complètement libre. C'est-à-dire que vous êtes votre homme. Parce que, effectivement, comme la situation inquiète tout le monde, ben les gens ne vous embêtent pas, ils vous laissent vous débrouiller tout seul.
Comme quoi, il y a des moments de grâce sont parfois pas ceux qu'on imagine a priori. Colbertisme ou libéralisme ?
Je dirais pragmatisme, parce que libéralisme, ça peut signifier effectivement une idéologie qui conduit à appliquer des principes sans regarder la situation, et colbertisme pourrait aboutir aussi à avoir des plans a priori qui supposent que des hauts fonctionnaires ou des politiciens sauront mieux ce qu'il faut faire que les gens concernés. Donc en réalité, c'est plutôt pragmatisme, c'est-à-dire un principe certes de liberté, c'est-à-dire tout simplement d'autonomie des personnes, mais en même temps en reconnaissant que cette autonomie ne marche pas si elle n'est pas dans un cadre structuré politiquement. Donc, pragmatisme.
Très bien. Benoît XV ou Pie XII ?
Les deux sont attachants parce qu'ils ont rappelé des grands principes ou un besoin de paix à un moment où, en gros, personne ne les a écoutés. Avec une différence majeure, c'est que pour Benoît XV, c'était des nations européennes traditionnelles dont ils pouvaient penser qu'ils écouteraient, ils ne l'ont pas fait. Et pour Pie XII, c'était la montée des totalitarismes et donc des gens particulièrement rétifs à écouter quoi que ce soit venant du pontife. Donc ça nous rappelle qu'effectivement, la fonction dite prophétique est à la fois tout à fait estimable, mais que son influence réelle sur les événements va dépendre beaucoup de ces événements et surtout de la réalité de ces événements. D'où l'intérêt, à mon avis, d'une géopolitique réaliste, parce que vous ne pouvez pas avoir de résultat moral, c'est-à-dire de recherche du bien, si vous n'avez pas commencé à regarder ce qui se passe réellement et quelles sont les réalités.
Et pour cette géopolitique, plutôt Europe fédérale ou Europe des nations ?
Europe fédérale, je pense que ce n'est pas possible, sauf de façon autoritaire, tout simplement parce qu'un pays fédéral comme la Suisse, l'Allemagne ou les États-Unis sont des pays, c'est-à-dire des nations. Il n'y a pas de nation européenne. Donc, une construction fédérale, à ce moment-là, va être forcément faussement fédérale, c'est-à-dire, en réalité, une construction de type autoritaire, même si c'est très enrobé. Europe des nations, en revanche, me paraît une bien meilleure référence. Il ne faut pas oublier que dans Europe des nations, il y a quand même Europe aussi, mais il y a une Europe qui se base sur les nations et qui se construit sur les nations.
Hormis les morts, quelle est la principale différence entre la guerre économique et la guerre tout court ?
La guerre, fondamentalement, vous détruisez. Vous avez des forces en face et vous détruisez le plus possible de ces forces pour aboutir à un certain résultat. Dans ce qu'on appelle par image la guerre économique, une telle situation peut exister, mais ce n'est pas intrinsèquement la guerre économique. La guerre économique, fondamentalement, vous avez plutôt une compétition. Elle peut parfois être très brutale, mais c'est de la compétition, pas la même chose. Je trouve qu'on abuse du terme des guerres économiques. En revanche, ça a un sens. Si ça conduit à se demander si des partenaires qui avaient l'air bien gentils, comme par exemple des concurrents, alors actuellement l'industrie allemande est en train de faire la rude épreuve de cette leçon.
Oui, pardon Pierre Delozan, on vous a un peu perdu sur cette réponse. Est-ce que vous êtes bien là ?
Oui, je crois que...
On la reprend ?
Oui, Pierre Delozan est là.
Pierre Delozan est là, très bien. Donc, Oui, bon, on va passer à la question suivante, du coup. Si vous pouviez assister à un conseil de guerre dans un pays actuellement en conflit, lequel de ces conseils choisiriez-vous ?
J'hésiterais entre deux. Israël, parce qu'ils ont montré une capacité tactique et stratégique tout à fait remarquable. Je ne dis pas qu'en revanche, leur objectif politique est justifié. Mais indéniablement, au service d'un objectif passablement brutal, ils sont remarquablement efficaces. Et puis, bien entendu, j'aimerais voir ce qui se passe en Iran, parce qu'une des leçons de base, c'est qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de celui qui a devant vous. Malheureusement, exercice que les Américains ont été extraordinairement peu, et en l'espèce, ça leur aurait bien servi de savoir un petit peu comment fonctionnaient les dirigeants iraniens.
Oui, en effet. La guerre que la France aurait dû perdre, mais qu'elle a gagnée de manière assez imprévisible.
Je veux choquer un peu les auditeurs, mais à mon avis, c'est les guerres de la Révolution de l'Empire, parce que c'est des guerres qui ont été gagnées à la fois par l'héroïsme des troupes, mais fondamentalement par la levée en masse, c'est-à-dire la décision que désormais les guerres seraient menées par la mobilisation maximale de la population. Oui. Et la France était à l'époque un pays extrêmement peuplé en Europe. Ça a donné, entre autres facteurs, mais ça a donné un avantage tout à fait décisif. Alors, en plus, quand c'est tombé dans les mains d'un génie militaire comme Napoléon, ça a donné des choses très brillantes, et puis à la fin, on s'en aperçut qu'on avait tout brûlé, et qu'on était revenu en 1815 à un point inférieur à ce qu'on était en 1789.
Oui, quelle tristesse. Et à l'inverse, la guerre que la France aurait dû gagner, mais qu'elle a perdue de manière assez incompréhensible.
Oui, alors ça dépend de ce qu'elle aurait dû gagner en termes militaires, ou parce qu'elle aurait dû s'organiser autrement. Moi, la plus navrante, à mon avis, c'est la guerre de 1871, si vous voulez. C'est le dernier moment où, démographiquement, la France et ce qui était devenu, ce qui devenait l'Allemagne, étaient comparables.
Ouais.
Et donc, la guerre est tout à fait gagnable. Et ça aurait évité, effectivement, l'enchaînement de ce qui s'est produit à la suite. L'Alsace-Lorraine perdue, bien sûr. Les 5 milliards qui n'ont jamais été remboursés. Mais aussi... le début d'un recul relatif de la France dans sa position par rapport aux autres pays.
Bien sûr, il faut venger 1871. La meilleure parabole économique qu'on trouve dans l'Évangile ?
À mon avis, la meilleure, c'est l'intendant infidèle, parce que à chaque fois, les prédicateurs se commencent à regarder l'auditoire en se demandant comment je vais expliquer ça. Vous savez, c'est l'intendant qui vole son maître,
oui.
Mais le maître le loue en disant « Oui, il est très malin, celui-là.
Oui. »
Évidemment, le point majeur, c'est ce qui est dit après, c'est-à-dire « Faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité, c'est-à-dire avec l'argent.
Oui. »
Et où il y a deux messages à la fois. Oui, l'argent, c'est dangereux, c'est toxique, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas échapper à votre devoir de l'utiliser au mieux et de l'utiliser très activement.
Oui. En effet, c'est une belle leçon synthétique et haute sur ce sujet épineux. Merci beaucoup pour cette présentation, Chapier de Lezin. On va rentrer maintenant dans le vif de l'entretien, notamment par rapport à votre ouvrage passionnant. On peut dire d'ailleurs aux éditeurs, on peut les encourager vivement à se le procurer parce que c'est un ouvrage à la fois bref, clair, cinglant et extrêmement éclairant sur des sujets pour le moins complexes et d'actualité, qui sont ceux un peu de la redistribution des tensions dans le monde, de la reconfiguration en fait du monde. Et d'ailleurs, ma première question, ce sera de vous demander, est-ce que nous sommes entrés depuis quelques années dans un nouvel âge de la guerre qui nous oblige à la redéfinir, pas seulement un nouveau moment évidemment géopolitique, mais vraiment un âge de la guerre quoi, qui serait incomparable évidemment avec ce qu'on a vécu peut-être après la guerre froide.
Oui, alors de deux manières, c'est-à-dire d'une part parce que la question de la guerre ne se pose plus de la même manière, il y a eu une illusion pendant un moment qu'on était sur un état relativement international, une situation relativement contrôlée ou régulée. C'était en grande partie une illusion parce que des guerres, il y en a eu très régulièrement, mais on avait cette illusion et cette illusion était particulièrement forte en Europe puisqu'en Europe, on a bénéficié d'une situation tout à fait particulière où en termes concrets, la menace d'abord soviétique ensuite a disparu. Donc, on pouvait avoir l'impression qu'il n'y avait plus de menace directe. Et d'autre part, dans la mesure où il y en avait une, les l'essentiel de la défense, en dernière analyse, était assuré par les États-Unis. Donc, situation très particulière. Donc, on n'a pas vu qu'elle était très particulière. On est en train de se rendre compte maintenant qu'on était dans une illusion relative. Autrement dit, dans une mesure importante, c'est une situation nouvelle, mais c'est surtout la réalité d'une situation qui se révèle à nos yeux et qu'on ne voulait pas voir. Alors, d'autre part, évidemment, on découvre aussi un nouveau stade de la guerre là, en termes proprement techniques, en termes techniques, comme le montre d'ailleurs déjà la guerre russo-ukrainienne, mais aussi dans une certaine mesure celle qui est en cours en Iran. C'est-à-dire qu'il y a un avantage considérable qui est donné maintenant à la puissance de feu par des engins comme les missiles ou surtout par les drones, qui, disons, donnent un avantage considérable aux pauvres. C'est-à-dire celui qui peut fabriquer des engins nombreux, mais très puissants et très efficaces. Et ce qui fait que la domination du champ de bataille, qui était celle traditionnellement des chars et des avions, est beaucoup plus relativisée qu'elle ne l'était. D'où l'aspect 14-18 que nous donne la guerre russo-ukrainienne, la relative stabilité, et des questions qui peuvent se poser, y compris par exemple de savoir est-ce qu'un porte-avions est quelque chose d'aussi décisif qu'on ne le pensait avant.
Bien sûr. Rémi Carlu.
Donc effectivement, on est dans une configuration assez notablement différente. En revanche, quelque chose qui est resté stable, c'est l'intérêt du nucléaire, et il est tout à fait évident que la guerre en cours,
à voir avec cette question du nucléaire,
en bonne logique, devrait renforcer très puissamment le désir de ceux qui n'ont pas l'arme nucléaire d'essayer d'assurer.
Rémi Carlu.
Oui, vous parlez du nouvel âge de la guerre et de la sortie d'une illusion qui était l'illusion de la fin de l'histoire. On se souvient du livre de Fukuyama. Et c'est une illusion qui a longtemps bercé les élites européennes, d'où ma question. Comment jugez-vous la réaction des pays européens à cette nouvelle donne? Trouvez-vous qu'il y ait une véritable prise de conscience? On parle d'un début de réarmement. Comment jugez-vous cette réaction à la hauteur des événements et du nouvel âge de la guerre qui s'ouvre?
Mais pas du tout dans les proportions voulues. On ne voit pas à quel point on doit changer en profondeur la manière de notamment d'assurer sa défense. Et on ne voit pas, par exemple, que actuellement sur le continent, les deux armées les plus au courant de ce qu'est une guerre moderne, c'est la russe et l'ukrainienne. La Russie et l'Ukrainienne, maintenant, à mon avis, dans une mesure non négligeable, surclasse les autres armées, non pas nécessairement qu'elles sont plus puissantes en soi, mais elles savent ce que c'est que cette nouvelle guerre. Les autres ne l'ont pas faite. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous pouvez garder encore beaucoup d'illusions. Autrement dit, la révolution mentale que ça impose va très très loin. Et elle va très très loin, y compris en termes de volonté de défense. Parce que ce que montrent les Russes, mais surtout les Ukrainiens, c'est qu'il faut avoir le courage chevillé au corps de manière extraordinaire pour arriver à tenir dans des guerres pareilles. Autrement dit, c'est une base culturelle qui est très étrangère à 40 ou 50 ans. Donc, technique ou économique, c'est-à-dire combien d'argent on met dans la défense aussi, mais le changement mental est totalement décisif. C'est ce que j'explique aussi dans un autre livre qui est sorti au même moment sur la communauté nationale, c'est qu'il est tout à fait décisif pour une communauté nationale d'avoir des gens qui acceptent de se battre et donc d'accepter d'être tués pour la communauté. Si vous n'avez pas des gens comme ça, bien d'autres en face qui, eux, n'hésitent pas et acceptent d'être tués au cas où, ont un avantage majeur sur vous d'emblée, parce qu'ils vont beaucoup plus loin, beaucoup plus vite.
Bien sûr,
évidemment. Si vous aviez une supériorité technologique radicale, mais les pays européens, de le dire, cette supériorité technologique s'appelle elle de volonté de se battre et de volonté de se dévouer pour la chose commune qui redevient totalement centrale, à côté évidemment de nombreux facteurs, augmenter les budgets militaires, changer les priorités, ainsi de suite.
Oui, ce qui fait que la supériorité qu'on imaginait avoir par les armes devient très relative à partir du moment où on n'a plus forcément des gens prêts à se battre et qu'on n'est pas aguerri aux nouvelles techniques de combat. Je voulais vous demander aussi sur l'évolution de Trump, parce qu'on a connu un Trump qui était isolationniste, qui se vantait d'arrêter les guerres successivement les années précédentes, et depuis 2026, alors est-ce que c'est un mauvais vœu qu'il a fait le 31 décembre. Mais enfin, depuis 2026, le voici comme belliciste et sans limite et dans une attitude qui semble complètement à revers du Trump précédent. Comment vous expliquez cette évolution, puisqu'on sait qu'il semble pas avoir d'idéologie très forte, mais plutôt une manière, une méthode de réagir aux situations. Comment vous expliquez ce revers ?
Oui, alors il faut voir que Trump 1, son premier mandat, était un mandat dans lequel il restait très largement prisonnier, d'une manière ou d'une autre, de l'establishment antérieur. Et il a conclu de son échec à la fin par le fait qu'il n'a pas été réélu et que Biden avait été élu, qu'il fallait changer beaucoup en radicalisant son approche. Et donc, il a considérablement radicalisé son discours. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il ne radicalisait pas dans le sens d'une intensification de ses interventions militaires et guerrières. Il avait même été élu sur le contraire. Mais on voit bien que son approche d'emblée, dès le moment où il a été élu, enfin, où il était intronisé en janvier, vous savez, la grande séance où il signait des tas de décrets un peu partout, etc., il s'est lancé sur un type de communication qui lui convient beaucoup plus et qui est très radicalement différent. Deuxièmement, on sait comment il opère, c'est-à-dire il fait des coups. Il faut vous rappeler que c'est à l'origine, c'est un promoteur immobilier. Et c'est quelqu'un qui est là un peu comme il bidouille avec son couteau pour essayer de trouver l'endroit où il arrive à accrocher quelque chose, à le faire sortir. Donc il essaye et il regarde. Là, il a essayé l'an dernier une méthode qui était une méthode plus chirurgicale, dont l'apothéose est probablement l'enlèvement de Maduro au Venezuela, où effectivement, il y avait un coup ou à peu près aucun risque, pas de mort, et très spectaculaire, avec un résultat qui, de son point de vue, est assez satisfaisant. Bon, il en a essayé d'autres, comme le Groenland, ça n'a pas marché dans les médias, mais il peut espérer qu'à terme, ça marchera. Il a mis une option, donc c'est un peu intéressant. Donc, la curiosité, effectivement, qu'il attend dans votre question, c'est l'Iran, parce que c'est là où il a basculé sur quelque chose qui va beaucoup plus loin. Alors, ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que ça reste une guerre partielle, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a guerre au sens plein du terme entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. Mais il n'y a pas de troupes au sol. Et ça, le troupe au sol, c'est la différence radicale. La troupe au sol, mais aussi le moyen sûr pour essayer de gagner. Parce que si vous avez des troupes au sol, vous vous emparez du pays. On n'a jamais emparé d'un pays jusqu'à maintenant par des bombardements aériens. Ou par des missiles ou l'équivalent. Donc, imaginez que, comme je disais, la personne qui bidouille et qui regarde, il a regardé si, en utilisant la méthode israélienne d'assassinat des dirigeants et en jouant sur le fait que le peuple iranien avait montré une grande lassitude à l'égard du régime, peut-être qu'il pouvait espérer que le régime a sauté. C'était, à mon avis, très naïf de le penser. Enfin, on pouvait essayer. Mais évidemment, ça n'a pas marché. Et donc, maintenant, il continue à bidouiller pour trouver autre chose. Alors, il y a le blocus naval qui, sur le plan purement technique, n'est pas idiot du tout, puisque là, le risque à court terme est assez faible et que ça gêne considérablement l'Iran. Mais évidemment, avec la grosse difficulté, c'est que ça ne peut pas durer indéfiniment, parce que les effets sur l'économie mondiale et sur le prix du pétrole et donc sur l'opinion de l'électeur américain qui sera au mid-term en novembre prochain, l'impact est considérable. Et donc, il va falloir qu'il continue à trouver autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a probablement que ses succès relatifs antérieurs lui ont en partie monté à la tête et en partie aussi, il a eu une forme d'indulgence pour une de ses passions qui est effectivement une obsession de la menace iranienne. Mmh. Donc, il a mis ça en haut de la pile d'une manière qui, à mon avis, de son point de vue à lui, n'est pas un très bon calcul. Autant il serait resté sur la méthode de l'an dernier, c'est-à-dire bombarder les sites nucléaires, ouais. Parce que là, directement, il opérait sur ce qui est réellement dangereux. Ce qui est réellement dangereux dans l'Iran, c'est le nucléaire. Donc, il aurait fait ça, ça aurait été resté assez cohérent. Là, à mon sens, à un moment donné, il a fait tapis un peu trop vite. Il a fait un tapis un peu trop vite. Alors, il pourra peut-être se refaire.
Richard de Sèze, vous vouliez poser une question.
Oui, vous dites que, évidemment, l'Iran avait la possibilité de cette arme nucléaire, sans doute très largement surévaluée. Et d'ailleurs, dans quelle mesure l'Occident est-il en droit de dicter qui peut posséder ou ne pas posséder l'arme nucléaire. Après tout, on l'a filée à Israël, le Pakistan en est doté, pourquoi pas l'Iran? Quelle est la légitimité des États-Unis à expliquer qu'ils sont les seuls à pouvoir la posséder et à l'utiliser, puisque rappelons-le, ce sont eux quand même qui ont fait quelques centaines de milliers de morts grâce à cette arme et que tous les autres se contentent de la posséder sans l'utiliser. Vous avez aussi dit que pour le moment, le dernier mouvement de Trump était assez intelligent, puisqu'il asphyxie financièrement l'Iran en faisant en sorte qu'elle ne puisse pas vendre son pétrole. Et du coup, c'est tout le pétrole qui est en train de se redéployer autrement par d'autres routes. On vient d'apprendre que les Émirats Arabes Unis avaient quitté l'OPEP. Donc en plus, non seulement ils ne peuvent pas vendre leur pétrole, mais bientôt leur pétrole ne vaudra plus rien. Donc on sent que Trump mise sur les marchés. Mais justement, est-ce que miser sur les marchés est la chose la plus intelligente alors que les marchés sont peut-être en train de jouer contre Trump? Le pétrole, pour le moment, ne cesse d'augmenter en attendant qu'il diminue, mais parce que là, pour le moment, l'Iran n'a pas fait faillite. Donc, la cherté du prix du pétrole, c'est l'enchérissement du pétrole intérieur pour les Américains. Et ça, c'est exactement ce qui a été reproché à Biden. Par ailleurs, il y a bien sûr ce bidouillage, comme vous dites, cette espèce de bricolage sur le pétrole, mais aussi, on dit qu'il n'y a plus de munitions du côté des États-Unis, ou très peu, et donc que les États-Unis ont besoin de refaire leur stock. Au début, on avait expliqué que c'était l'Iran qui était mis à nu, qu'elle n'avait plus de rampe de lancement et plus de missiles. Maintenant, au fur et à mesure, les journaux américains expliquent non seulement, d'une part, qu'il y a eu beaucoup plus de dommages matériels causés aux États-Unis, notamment dans toutes les bases américaines de la région, mais qu'en plus, il est évident que l'Iran possède encore 30 à 50% de ses rampes, 50 à 70% de ses missiles, alors que les États-Unis sont à poil. Et enfin, troisième M, c'est les mid-term. Trump a affaire à une opposition interne absolument incroyable qu'il a réussi à susciter lui-même. Est-ce que véritablement, non seulement il n'a pas fait tapis trop tôt, mais est-ce que véritablement vous pensez qu'il est capable de se refaire en ayant tous ces obstacles qu'il a générés lui-même? Je peux faire une question encore plus longue si vous voulez, Pierre Delozan.
Oui. Non, mais c'est un peu ce que je disais à l'instant. Il a fait ce coup là du blocage naval. C'est un coup, comme on dit, aux échecs. Il a fait un mouvement sur une pièce. C'est pas un coup décisif. Et notamment parce que, comme vous le soulignez, il y a le problème de tenir sur la durée. Si Trump était dans une situation complètement différente, s'il était un dirigeant de type chinois, par exemple, avec 10 ans de...
Peut-être passer au téléphone tout seul, n'est-ce pas? Parce que ça...
Oui. Les États-Unis comme pays, pas comme électeur, souffrent beaucoup moins de la hausse du prix du pétrole que, par exemple, potentiellement les Européens.
Oui, cher Pierre Delezin, on vous perd un peu. Pardon, on vous perd un peu. La communication n'est pas très bonne.
On voulait possibilité. Simplement, Trump n'a pas cet horizon de temps devant lui. Oui, là, ce que je disais, c'est que Trump avait le temps. S'il avait un régime autoritaire. Okay. Et si, effectivement, il pouvait tenir un blocus très longtemps, ça pouvait être astucieux. Mais ce n'est qu'un coup pour le moment, parce qu'effectivement, il n'est pas dans cette situation-là. Et je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il joue les marchés. Il regarde les marchés. Mais là, le marché, effectivement, comme vous le disiez, ne va pas dans son sens. La hausse du prix du pétrole, là, est dangereuse électoralement pour lui. Ça peut nuire aux Européens, mais ça, à la limite, ce n'est pas son problème. Mais il est clair que ça lui nuit, lui, politiquement. Deuxièmement, si ça asphyxie l'économie mondiale, ce n'est pas non plus extrêmement positif. Donc là, ce n'est qu'une étape dans un jeu qu'il joue. Il a effectivement utilisé une partie de son stock, notamment de missiles antimissiles, pour la protection de manière très élevée. On s'aperçoit qu'il ne pourrait pas continuer une guerre dans ces conditions-là pendant extraordinairement longtemps. Il a quand même détruit, lui et les Israéliens, une grande partie du potentiel iranien. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire maintenant l'un a gagné ou l'autre a perdu. C'est une guerre. Et la caractéristique principale d'une guerre, c'est que si les gens continuent à une guerre, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont encore une chance de la gagner ou de la perdre, chacun de son côté. Et il y a une incertitude majeure qui vient de là. Et c'est ça que les gens qui sont trop moralisants en matière politique ne comprennent pas, c'est qu'il y a une incertitude de base. Il y a des guerres qui, à un moment donné, ne s'arrête pas, parce qu'aucun des belligérants, pour aucun des deux belligérants, ça n'a un sens d'arrêter trop vite. Je pense que Trump a un intérêt à arrêter, mais il ne peut pas arrêter en décidant d'un coup, tiens, j'arrête, je négocie. Et donc, il est obligé de continuer à essayer de trouver un truc qui lui permet de sortir dans des conditions favorables. Mais savoir quelle sera l'issue finale de cette affaire-là, je ne pense pas que ça soit très clair. En revanche, il y aura une leçon qui est manifeste, c'est qu'il y a des limites à ce que peuvent faire les États-Unis. On connaissait les limites de l'occupation, c'est-à-dire des troupes au sol, comme on l'a vu dans la guerre d'Irak, où la guerre d'Irak a pu être gagnée militairement, mais n'a pas été gagnée politiquement. Et on découvre qu'il y a aussi d'autres limites qui vont beaucoup plus loin. Alors, sur le nucléaire, il est clair qu'il y a quand même un inconvénient à la prolifération nucléaire. La prolifération nucléaire accroît par construction le risque qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, l'utilise. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays qui sont passés au nucléaire. S'il y a un conseil à donner à quelqu'un pour passer au nucléaire, il faut être très discret surtout. Sur ce plan-là, les Iraniens se sont probablement assez mal pris. Ils auraient dû montrer patte blanche, faire les gentils, et puis en sourdine ou sournoisement, faire leur nucléaire. Ils ne l'ont pas fait. Et puis un deuxième défaut des Iraniens, c'est qu'ils ont affiché une politique extrêmement agressive, et notamment dans le cas d'Israël, ce qui fait que pour Israël, c'est clair, c'est une question de vie ou de mort. Donc, du point de vue israélien, le nucléaire iranien est complètement différent du nucléaire pakistanais. Les Pakistanais n'ont jamais déclaré qu'ils voulaient détruire Israël. Peut-être qu'ils le feront un jour, mais enfin, ils n'ont jamais déclaré qu'ils le faisaient. C'est-à-dire que le régime iranien, lui, il l'a fait. C'est cette dimension idéologique du régime iranien, qui est d'ailleurs en soi très irrationnelle, parce qu'elle ne correspond à aucun intérêt collectif du peuple iranien ou même de la puissance iranienne, mais ils se sont donné cet objectif. Et ils sont les seuls maintenant à l'afficher au Moyen-Orient. Et donc, on comprend que le nucléaire iranien est un enjeu majeur du point de vue israélien. À partir du moment où il est du point de vue israélien, il l'est aussi, dans une certaine mesure, pour les Américains, du fait du positionnement qu'ils ont choisi.
Merci beaucoup pour cette longue réponse et méticuleuse à la longue question de Richard. Il est 18h02. Et c'est donc l'heure déjà dépassée de la mythique chronique de Rémi Carlu. Et donc, cher Rémi, je te laisse nous emmener chez Gilbert Joseph en redressement judiciaire.
Et oui, cher Romaric, après l'éviction d'Olivier Nora de chez Grasset, c'est un second coup de tonnerre, et bien plus grave sans doute, même s'il ne fera pas la une de Libération, qui vient de frapper le monde du livre. Gilbert Joseph a demandé, pas plus tard qu'hier, son placement en redressement judiciaire au tribunal des activités économiques de Paris. Fondée en 1886 par Joseph Gilbert, l'enseigne s'est imposée comme l'un des tout premiers libraires et disquaires en France, et pourtant cette position dominante n'aura pas suffi à assurer la santé financière du groupe, qui, dans un communiqué, explique ses déboires par, je cite, « l'explosion des coûts fixes et le déclin du marché des livres neufs ». Moins de livres vendus et plus de dépenses de fonctionnement, l'équation ne pouvait qu'être négative.
La santé financière du groupe est-elle en si mauvais état ?
Eh bien, en 2025, le groupe réalisait un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros. Un joli pactole, me direz-vous, mais un pactole en baisse, puisqu'il atteignait quasiment les 120 millions d'euros en 2019. Moins de 30% en 6 ans, la chute est rude. Et depuis, le groupe accumule les mesures de restrictions financières. Dès 2020, en pleine crise du Covid, plusieurs points de vente étaient placés en liquidation judiciaire, tandis qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était lancé après la vente des murs mythiques Place Saint-Michel. En 2021, le groupe fermait 4 librairies dans ce même quartier. Fin 2025, 2 autres magasins baissaient définitivement le rideau dans le quartier latin et le 13e arrondissement de Paris. C'est désormais tout le groupe qui est placé en redressement judiciaire, ce qui va lui permettre de geler ses dettes et de poursuivre son activité, bien sûr, tout en essayant de redresser ses comptes. Mais avouez, cher Romaric, qu'on a vu des perspectives plus réjouissantes.
Comment expliquez-vous cette chute spectaculaire d'un libraire pourtant si mythique ?
Eh bien, cette chute peut s'expliquer, à mon avis, en 3 temps. Première explication, bien sûr, le nombre de livres neufs vendus est en chute constante ces dernières années. Rien que depuis le mois de janvier, ce marché est en baisse de 5%, après des chutes de 2,5% en 2025 et de 3% en 2024. Deuxième explication, sur ce marché du livre neuf qui se comprime, le e-commerce prend de plus en plus d'importance. Depuis 2010, ses parts de marché sont passées de 10 à 25% pour la majorité détenue par Amazon. Troisième explication, le boom des concurrents au livre neuf, avec d'un côté les livres numériques qui représentent maintenant 10% du chiffre d'affaires des éditeurs, avec de l'autre côté le marché de l'occasion. En France, aujourd'hui, un livre acheté sur 5 est un livre d'occasion. Et chaque année, le marché de l'occasion progresse de 5 à 10%. Autrement dit, à ce rythme, ce ne sera plus 2, mais 4 ou 5 livres sur 10 qui seront achetés d'occasion en 2050. Alors vous me rétorquerez, cher Romaric, comme tout bon journaliste qui a l'habitude d'y revendre ses services presse, c'est notre pourboire à nous, que Gilbert Joseph s'est positionné depuis fort longtemps sur le marché de l'occasion, et vous aurez raison, et même plus raison que vous ne le pensez. Figurez-vous que Gilbert, à sa création, était uniquement une librairie d'occasion qui revendait notamment des manuels scolaires dans le quartier latin, alors que l'école de la Troisième République prenait son envol. En clair, la vente d'occasion est l'ADN historique de Gilbert, qui ne s'est positionné sur le neuf qu'à partir des années 20 et surtout des années 50. Aujourd'hui, le livre d'occasion représente encore un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise, et Gilbert mise même sur le doublement de cette proportion pour s'en sortir. Un retour aux sources qui ne déplaira pas, j'en suis sûr, à vos oreilles réactionnaires, mais je crains que les positions solidement acquises par ses concurrents fassent obstacle à cette rédemption.
Dans une chronique sur RTL, François Langlais expliquait ce reflux par la politique du prix unique du livre. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, tel est le fond de l'argument du dit économiste. Le prix unique du livre, en bloquant le mécanisme du marché, a empêché le jeu de la concurrence et donc la baisse des prix. Si les Français n'achètent plus de livres, c'est parce que leur prix serait trop élevé. Et pour illustrer son propos, Langlais arguait que la rétraction du marché du livre n'était pas un mouvement universel, puisque les ventes connaissent un essor en Inde, au Mexique ou en Espagne. C'est donc le prix unique, ayant aussi cours en Allemagne où la baisse est semblable à la France, qui en serait l'unique responsable. Sans le vouloir, Jack Lang aurait donc sacrifié les livres pour sauver les libraires. Alors, nier à Jack Lang les bienfaits de sa seule mesure qui semblait bienfaitrice, je dois vous avouer, cher Romaric, que cette perspective était extrêmement séduisante. Mais elle ne résiste pas à l'analyse, pour la simple et bonne raison que l'introduction du prix unique en 81 n'a provoqué aucun recul du marché du livre, bien au contraire, puisque celui-ci continuait de croître jusque dans les années 2010. Du reste, comparer un vieux pays lettré comme la France à des pays en plein essor comme l'Inde ou le Mexique n'a aucun sens. Croire qu'une diminution des prix des livres résoudra le problème alors que tous les acteurs de la chaîne sont déjà à la peine relève du vieux réflexe libéral un peu absurde et qui n'a même pas vu que l'invention du livre de poche a résolu la question des prix depuis un bon siècle. C'est surtout passé à côté de la raison essentielle, mais dont, je vous rassure, chers auditeurs, Jack Lang est encore le coupable.
À quoi pensez-vous donc, cher Rémi ?
Eh bien, ce n'est pas le marché du livre qui est en crise, c'est la pratique de la lecture. D'un à deux livres par an dans les années 50, les Français ont acheté jusqu'à 7 ou 8 livres dans les années 2000, avant le reflux que nous connaissons. En 2025, 56% des Français se déclarent lecteurs réguliers, soit 5 points de moins qu'en 2023. Sur la même période, accrochez-vous, leur temps moyen de lecture a chuté de 25%, passant de 41 à 31 minutes quotidiennes. Chaque semaine, un Français lit 3h40, mais passe 23 heures sur ses écrans. Il a donc l'argent suffisant pour s'acheter des livres, mais il préfère s'abonner à Netflix. Voilà le seul, vrai et unique problème auquel reste aveugle la petite analyse étriquée de François Langlais, qui constate la diminution de la part des libraires, sans voir que c'est le gâteau qui est en train de fondre.
Certes, mais quel rapport avec Jack Lang ?
Eh bien, avec le funeste Jules Ferry, la République espérait d'abord fabriquer 60 millions de citoyens éclairés, ce qui devait être l'apothéose du nouveau monde démocratique. Puis, avec le funeste Jack Lang, elle décrétait que tous les arts étaient égaux, que toutes les œuvres se valaient, que tout était culture. Une pissotière équivalait Michel-Ange et le pass culture financerait bientôt les escape games. Ce fut le sacrifice inaugural de la qualité à la quantité, dont l'on mesure maintenant toutes les conséquences, conséquences qui seraient encore plus frappantes si l'on s'intéressait non plus indistinctement au marché des livres, mais à celui des bons livres. Un exemple, en 2025, le marché du livre s'est maintenu grâce aux 6 ouvrages que Freida McFadden, auteur de La femme de ménage, a placés dans le top 10 français. 6 ouvrages dans le top 10 français. La crise de la culture est encore plus profonde que les chiffres, ne le font croire. Arrachés à leurs églises, champs et ateliers pour accéder aux supposées lumières de la République, les Français se roulent maintenant avec allégresse dans la boue du divertissement. Ils y perdent littéralement leur vocabulaire pendant que les grands lecteurs se raréfient. La décadence, déjà démontrée par les classements éducatifs, se mesure désormais dans les bilans économiques de nos librairies, quoique les économistes ne soient visiblement pas tous capables de le comprendre. Tant pis pour la promesse des Lumières universelles, comme si le progrès avait ultimement sacrifié le progrès. La République nous promettait ses rayons, mais nous coiffe de ses ombres.
Merci, cher Rémi. Voici un autre déboire que le nôtre, que cette chute de la puissance du rayonnement de la littérature dans notre pays. Cher Pierre Delauzin, justement, y a-t-il un lien entre géopolitique et littérature ? On sait que derrière les victoires d'Aristote, n'est-ce pas, Derrière les victoires d'Alexandre, il y avait Aristote. On sait que De Gaulle était un grand lecteur, que Napoléon également. Bon, malheureusement, c'était un fan de Robespierre. Il y a quand même mieux. Mais par ailleurs, il avait aussi certains goûts littéraires. Est-ce qu'il y a un lien entre, presque qu'on verrait remonter à l'Athéna des Grecs, entre la littérature et la guerre? Ou est-ce qu'on est peut-être aujourd'hui dans des nouvelles guerres qui sont plus liées aux jeux vidéo et que finalement, cette base culturelle est devenue secondaire?
Non, je crois au thème classique selon lequel la formation culturelle joue un rôle décisif pour la formation du caractère. Et je crois que c'est un point qui avait été souligné par Fauch en son temps. Et effectivement, la question revient un peu aussi à celle que je décrivais tout à l'heure, des gens qui ont envie de se battre ou qui ont envie de mourir. Et pas, si je dis pas que ça peut être une pulsion un peu sauvage, je veux dire, d'individus qui n'hésitent pas parce qu'ils sont nés dans une culture où on ne valorise pas la vie ou au contraire on exalte le héros. Et précisément, il y a dans un pays civilisé, au contraire, un besoin de garder cette logique de civilisation, mais de le faire de manière à la fois réaliste et stimulante, c'est-à-dire en sachant qu'un certain nombre d'attitudes sont à la fois nobles et nécessaires collectivement. Et l'attitude, effectivement, de ce qu'on appelle le héros est tout à fait centrale. Alors, il y avait un livre intéressant il y a quelques années qui montrait qu'il y avait un déplacement dans l'intérêt collectif, et notamment dans la littérature, valorisant désormais non plus le héros, mais la victime. Mmh. Or, le héros, c'est celui qui fait quelque chose d'exceptionnel au profit d'une cause générale. La victime, c'est quelqu'un qui subit, qui est naturellement profondément digne de respect, enfin, qui n'est pas du tout aussi noble, si j'ose dire, que le rôle du héros. Et donc, tout ce rôle de la littérature de Plutarque, etc., tout ce rôle de la littérature classique qui mettait au centre l'idée du héros, et quelqu'un qui se dépasse lui-même au service de quelque chose de supérieur, c'était une des choses que nourrissait la littérature. Ce n'est pas la seule chose, c'était quand même une dimension importante. Et donc, à partir du moment où vous remplacez par des jeux vidéo, dans des jeux vidéo, vous ne formez aucun caractère et vous formez aucune culte d'un idéal, aucun culte des vertus. Or, on en a besoin, une culte des vertus, dans ce cadre-là.
Ou alors, si on lit trop Christine Angot, on est peu sûr d'être flamboyant au front, nous imaginons, puisqu'il s'agit encore du culte des victimes dans ce cas. Oui, hein. Rémi Carlu avait une nouvelle question.
Oui, les humanités permettent effectivement de poser...
Il y a littérature et littérature, c'est-à-dire que, autrement dit, le fait qu'il y a besoin de littérature... Le fait qu'il y a besoin de littérature ne signifie pas n'importe quelle littérature. Il y a quand même aussi une décomposition. Le rôle de la littérature, moi j'en lis beaucoup moins maintenant d'ailleurs, de la littérature actuelle, parce que je trouve qu'effectivement elle donne des horizons ou sinistres ou médiocres. Et à ce moment-là, elle ne remplit plus sa fonction.
Tout à fait. Christine Angot essaie de parasiter cette émission parce qu'elle est offusquée des propos qui y sont tenus. Donc que nos auditeurs nous excusent pour les troubles parfois sonores qui s'y produisent. Cher Rémi Carlu, donc vous aviez une question.
Oui, on parle des humanités. Les humanités permettent de poser des jugements éthiques. Et j'en viens à vos travaux. Pierre Delauzin, vous avez publié coup sur coup deux livres, à mon avis, importants. Le premier sur la guerre juste. Le plus récent, Géostratégie et bien commun. Deux livres qui sont un petit peu comme des manuels très importants aujourd'hui, maintenant que nous sortons des illusions de la fin de l'histoire, que la guerre se répand sous nos yeux. Ce sont deux manuels qui nous permettent d'essayer de discerner quel est le bien ou comment rechercher le bien commun dans des situations de guerre. Alors, on a décrit en première partie la guerre en Iran un peu sous toutes ses coutures. Maintenant, essayons de l'aborder sur le plan éthique. Disons, notamment à travers d'une notion importante à laquelle vous avez consacré un ouvrage, la guerre juste. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la théorie de la guerre juste telle que conceptualisée par l'Église catholique dans sa doctrine sociale, et surtout essayer de l'appliquer au conflit actuel en Iran selon ces différents critères pour nous dire si cette guerre en Iran est une guerre juste ou non?
Ben, la théorie de la guerre juste est à mon avis un très bon exemple de la bonne méthode, du bon usage de la morale. D'ailleurs, l'idée de la morale, c'est de rechercher le bien. Et donc, la théorie de la guerre juste est une méthode pour essayer de voir dans une situation si, compte tenu de ce que sont les réalités, quelque chose qui est intrinsèquement plutôt mauvais comme la guerre peut avoir à être assumé. Et la théorie de la guerre juste pose un certain nombre de critères qui consistent à dire d'abord, il faut que la cause que l'on défend soit raisonnablement juste, que l'autorité soit légitime, ça va de soi, mais aussi il y a des facteurs très importants qui est d'avoir des chances très raisonnables de succès et deuxièmement, une conviction raisonnable qu'en faisant cette guerre et en supposant qu'on la gagne, on aura une situation meilleure que ce qui allait exister avant. Et comme vous le voyez, il y a un parti pris extrêmement réaliste, c'est-à-dire de dire ne la faites pas parce que vous pensez que vous défendez une cause exaltante et juste. Ça ne suffit pas. Moi, je le vois en réaction sur les réseaux sociaux, des articles que je publie, où les gens me disent « Mais attendez, c'est absolument affreux ce qui se passe. Vous ne pouvez pas tolérer l'agression des Russes contre les Ukrainiens. Donc, vous devez. » Non, on ne peut pas raisonner comme ça. On doit raisonner en se disant « Par l'action que je vais mener sur le plan militaire ou en aidant quelqu'un sur le plan militaire, quel est le résultat que je vais obtenir ?» Parce que si je ne raisonne en parachutant des discours moraux abstraits sur une situation, en général, j'arrive à une situation moins bonne, d'abord parce que je n'ai pas bien analysé la situation, et deuxièmement parce que je m'exalte, parce que la moralité que j'affiche me monte à la tête et m'exalte. Ça, c'est aussi une des caractéristiques de la politique américaine, mais je dirais plus généralement occidentale. Ce besoin de mettre des justificatifs moralisants, sincères ou pas, mais même s'ils sont sincères, je dirais à la limite, ils sont presque encore plus dangereux. Alors que les objectifs qui consistent à rechercher le bien sont effectivement en soi justifiés, mais à ce moment-là, c'est justifié en fonction de la situation. Alors dans le cas de l'Iran, ça paraît tout à fait clair, c'est-à-dire des chances raisonnables de succès, il fallait, mis à part les fondements du régime iranien et son remplacement par un régime plus acceptable, parce qu'on a vu que les printemps arabes, que les fondements d'un régime ne signifient pas que ce qui vient après sera meilleur. Donc, cette condition n'est évidemment pas respectée. Les chances raisonnables de succès n'étaient pas nécessairement respectées. Le blocage du détroit d'Ormuz était quand même une hypothèse complètement évidente. N'importe qui ouvrant une carte regarde le détroit d'Ormuz, comprend que les Iraniens ont une possibilité de le bloquer. Donc, le déclenchement de cette guerre, à mon avis telle qu'elle est, ne correspond pas à une guerre juste. Le seul argument que je considère acceptable, c'est le nucléaire, pour les raisons que je disais tout à l'heure. Et cette guerre ne résout rien sur le plan du nucléaire. Elle ne fait absolument pas avancer le dossier. Je dirais même qu'elle le fait reculer parce que, logiquement, elle convainc encore plus les dirigeants iraniens sur le fait qu'ils ont un intérêt majeur à avoir le nucléaire. Donc, ça ne correspond pas aux critères de la guerre juste.
Rémi ?
Oui. Mais suite à la multiplication des interventions américaines, beaucoup se sont émus des violations répétées du droit international. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Que le droit international peut-il faire dans la recherche du bien commun mondial ? Est-ce que l'ONU est encore une organisation pertinente, pour conduire cette recherche du bien commun ? Puisque ce que vous montrez dans votre dernier livre, c'est que le drame de la géostratégie, d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a aucune institution surplombante, contrairement à un État dans un ordre interne, qui soit capable de conduire cette recherche du bien commun et que ce sont les acteurs, en tant que tels, qui doivent un petit peu s'arranger entre eux pour essayer de rechercher ce bien. Est-ce que le droit international, est-ce que l'ONU peuvent avoir un rôle sérieux à jouer ou est-ce que ce sont des instances condamnées par avance ?
Or, l'ONU ou le droit international peuvent avoir un rôle, mais ce n'est pas le rôle de démiurge, c'est-à-dire le rôle de celui qui règle la question fondamentalement parce qu'il est en position de surplomb. C'est un moyen utile à l'occasion, dans la boîte à outils. Mais tiens, il y a aussi un tournevis. À l'occasion, on peut avoir utilisé l'instrument ONU. Et puis, bien entendu, le droit international permet un certain dialogue et l'établissement de repères communs. Mais ce n'est pas plus que ça. Le terme de droit est complètement trompeur. Effectivement, comme vous le disiez, dans un pays, le droit, c'est quelque chose qui va être décidé et mis en œuvre par l'autorité publique qui a les moyens, au moins en principe, de le faire appliquer, et notamment la force, par la police, la justice, etc. Il n'y a rien de tel au niveau international. Et donc, il n'est absolument pas étonnant qu'en réalité, le rôle et de l'ONU et du droit international, dans les 40 dernières années, 50 dernières années, ait été relativement limité pour empêcher les guerres. Ça a pu aider à les arrêter, mais parfois, au lieu de les arrêter, ça les a gelés sur place, et la question palestinienne en est un excellent exemple. Dans d'autres cas, l'ONU a pu servir pour enrober une action qui était en réalité celle des États-Unis. La guerre de Corée est un très bon exemple aussi. Mais il n'y a eu détecté ni le droit international, ni le passage par l'ONU. L'invasion de l'Irak en est évidemment un cas totalement caricatural, les guerres au Vietnam aussi. Donc, on exagère l'importance de ces repères dans le monde d'avant Trump. Alors, la différence avec le monde de Trump, c'est que Trump récuse le principe lui-même. Autrement dit, il n'enrobe pas dans une idéologie supposée bienveillante. Il assume une certaine brutalité. Ça a un côté positif, c'est de reconnaître la réalité, et c'est un côté négatif, parce que ça, évidemment, aiguise les angles, ça rend les choses encore plus abruptes et violentes qu'elles ne le seraient spontanément. Alors qu'il faut simultanément reconnaître les réalités de leur rapport de force, et en même temps chercher des solutions positives. Et donc, on retrouve un petit peu la parabole de l'intendant infidèle tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut assumer la situation où on est. Croire qu'il y a une méthode abstraite qui s'appelle le droit international, l'ONU ou quoi que ce soit, est une naïveté. Chaque État est souverain et est responsable de ce qu'il fait et doit assumer ses responsabilités. C'est des responsabilités réalistes, qui est notamment la défense et d'assumer, le cas échéant, la lutte armée, mais c'est des responsabilités positives pour essayer de trouver des solutions là où on peut pour faciliter la recherche de la paix.
Cher Pierre Delauzin, vous témoignez tout à l'heure sur vos souvenirs professionnels qu'un de vos grands souvenirs était celui d'une situation désastreuse qui vous permettait d'être libre. Est-ce que cette reconfiguration du monde, a priori un peu cataclysmique telle qu'on l'aperçoit ici, peut être une grande opportunité pour la France? On pense notamment évidemment à cette faillite de l'OTAN à laquelle on assiste. Est-ce que la France peut, parce qu'elle a normalement quand même une des meilleures armées, enfin la meilleure armée d'Europe, reprendre un rôle stratégique et décisif en Europe grâce à cette réorganisation? Est-ce que ça peut être une grande opportunité pour nous, cette situation calamiteuse?
En principe, oui. C'est-à-dire que la France a un ensemble d'atouts absolument extraordinaires. Donc, le fait d'une puissance nucléaire est un atout. Le fait d'avoir une armée toute petite, quand même, par rapport à ce qu'elle a été historiquement, mais de très bonne qualité, est aussi un atout. Le fait d'avoir un patrimoine outre-mer immense est un atout gigantesque. La France a l'un des premiers patrimoines d'outre-mer de toute la planète. Donc, la France devrait être beaucoup plus tournée vers le planétaire et vers l'universel qu'elle ne l'est en s'enfermant dans les cloîtres confidentiels de Bruxelles. Donc, il y a sur le papier, en soi, de quoi faire des choses assez remarquables. Évidemment, maintenant, il faut le vouloir. C'est-à-dire pour ça, il faut sortir de cette espèce de sortilège qu'a été pendant des années l'idée qu'on allait vers un monde de plus en plus apaisé, dans lequel la priorité absolue était l'abandon de notre souveraineté au profit d'une illusoire souveraineté européenne. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas coopérer avec les autres pays européens. Il faut évidemment coopérer avec les autres pays européens. Mais le destin qu'on assume, c'est nous-mêmes qui l'assumons. Si le destin doit être assumé au-delà des niveaux français, ça veut dire que la France disparaît dans un ensemble plus vaste. Et à mon avis, serait horriblement dangereux et contre-productif. Donc, il y a la question, c'est de s'assumer enfin comme acteur sur le plan international et en tirer les conséquences. C'est un changement mental gigantesque. Le changement mental me paraît beaucoup plus important que les mesures pratiques ou techniques que cela entraînerait.
Rémi Carlu.
Oui, il y a une entité surplombante tout désignée pour rechercher le bien commun mondial, c'est l'Église catholique, évidemment. On a vu récemment la passe d'armes entre Donald Trump, J.D. Vance et Léon XIV, notamment sur la question de la guerre juste. Alors, comment vous avez-vous analysé cette séquence? Plus largement, quel est le poids de l'Église, des paroles du pape, de ses appels à la paix aujourd'hui dans le jeu international? Et plus largement, on sait que la doctrine sociale de l'Église appelle notamment, pour défendre ce bien commun universel, à la création d'une autorité publique mondiale. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? N'est-ce pas pour le coup un peu illusoire? Est-ce que ça tranche pas un peu justement avec le réalisme que vous vantiez auparavant de la doctrine de l'Église sur ces questions?
Oui, alors sur le premier point, c'est-à-dire les rapports entre ces Américains d'un côté et de l'autre, à Rome et à Washington, bon, je ne parle pas de Trump. Trump a été d'une grossièreté parfaitement odieuse, comme il l'est très très régulièrement. C'est une de ses manières de communiquer et d'instaurer un certain type de rapport dont il pense que ça va être à son avantage. Le cas de J.D. Vance est plus intéressant parce qu'il s'est, à mon avis, très mal exprimé, mais il a rappelé une ou deux choses qui ne sont pas fausses. Il a rappelé notamment, effectivement, l'existence de la théorie de la guerre juste. Et cette théorie de la guerre juste, qui est dans le catéchisme, a été remise en question en passant, mais quand même par le pape François, et le pape Léon XIV ne l'a pas beaucoup utilisé. À mon avis, il aurait pu l'utiliser beaucoup plus activement dans la guerre d'Iran, d'une manière qui aurait été plus compréhensible pour J.D. Vance. Alors en même temps, J.D. Vance emploie un vocabulaire inadéquat quand il dit que le pape doit se limiter à la morale. Il est évident que la morale suppose aussi un jugement en matière politique, donc on ne peut pas les séparer. Je pense qu'il voulait dire qu'il y a d'un côté le rappel des principes et le rappel des règles qui relèvent de la morale et de la doctrine, et qui est un domaine de l'enseignement pontifical, et puis l'autonomie des réalités terrestres, qui est la responsabilité des laïcs. Ça, c'est vrai qu'il y a les deux niveaux. Mais le niveau, le fait que les laïcs aient la responsabilité des choix politiques ne signifie pas qu'ils se soustraient aux références morales. Alors, par ailleurs, il y a évidemment une question de savoir comment se situe l'Église par rapport au réalisme politique en la perspective. Je ne parle pas du réalisme politique cynique, mais du réalisme politique tel que je le décrivais, c'est-à-dire d'accepter les réalités et de savoir que l'action morale s'exerce sur la base de ces réalités et pour agir sur ces réalités. Or, il y a un courant qu'on appelle parfois prophétique, consistant effectivement à monter sur ses grands chevaux spirituels et de ce fait à proposer une forme ou une autre d'utopie. Je pense que l'autorité internationale relève de ça. Il est vrai que doctrinalement, il se bien qu'il y ait une telle autorité. Il est manifeste que l'autorité de ce genre-là s'instaure. Si jamais elle s'instaurerait, dans le monde actuel, ça voudrait dire qu'une des puissances l'a emporté. Mais en soi, il n'y a absolument pas les bases. Vous imaginez nous, la Chine et la Russie. Ça n'a pas de sens. Donc, ça ne correspond à aucune réalité. Si c'est un peu comme l'utopie de Thomas More, c'est-à-dire un roman, une imagination, une parabole pour rappeler une situation qui serait idéale, c'est concevable, mais ce n'est pas une proposition politique réaliste. Et donc, il y a un danger du prophétisme. Alors, ceci dit, la conduite pratique, en revanche, la diplomatie vaticane n'est pas du tout de ce type-là. Elle est contraire, beaucoup plus réaliste et peut-être, à ce point de vue-là, plus efficace. Mais ce danger du prophétisme est un danger qui menace et qui, à mon avis, affaiblit en réalité la portée de ce que peut dire l'Église. Quand Jean-Paul II avait condamné l'invasion de l'Irak en rappelant que ce ne respectait pas les principes de la guerre juste, là, il était directement sur le point, c'est-à-dire il disait « Attendez, il y a une doctrine, manifestement, vous ne la respectez pas ». Tandis que parler de la paix en général est à la fois complètement justifié, mais en même temps, le point central, c'est de savoir comment on fait pour y arriver.
Cher Pierre de Lauzin, je vais vous poser une dernière question parce qu'on va bientôt devoir vous congédier, enfin voilà, et vous remercier pour tous ces éclairages merveilleux. Pour conclure, puisque comme je l'ai dit dans votre présentation, ce qui m'impressionne beaucoup, vous êtes un chevalier du Saint-Sépulcre, pensez-vous qu'il serait possible de créer un nouvel ordre, justement, un ordre pas forcément militaire et étant donné l'époque, mais qui serait lié à l'Église pour soit protéger la Terre Sainte, soit imposer une diplomatie géopolitique chrétienne. Est-ce que un tel fantasme est envisageable, si ce n'est une utopie?
Moi, je dirais une des choses qui m'a attaché dans l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est un des deux ordres de chevalerie reconnus par le Vatican, par l'Église catholique. L'autre est bien connu, tout le monde, c'est Malte, oui, bien sûr. Et puis, il y a l'ordre du Saint-Sépulcre, qui est clairement un ordre de chevalerie. Non, si on s'appelle ordre de chevalerie, on fait référence aux valeurs de la chevalerie. Donc, il y a reconnaissance publique de ce fait par l'Église des valeurs de la chevalerie, au moins dans ces deux ordres-là. Donc, c'est quelque chose qui reste totalement d'actualité ou fécond. Alors après, évidemment, c'est comme quand il y a une nouvelle fondation religieuse, comme il y a eu en leur temps les franciscains, les jésuites, et ainsi de suite, il faut qu'il y ait une vocation. Une vocation, c'est un appel. C'est-à-dire, ça suppose, si vous êtes croyant, que c'est quelque chose que Dieu a suscité ou a appelé à un moment ou à un autre. Mais effectivement, il me semble que la ressource spirituelle et morale de la chevalerie n'est absolument pas épuisée.
Eh bien, merci mille fois pour cette très belle conclusion, Chapierre de Lauzin. Merci pour tous ces éclairages. Nous espérons que des vocations de chevaliers très nombreuses s'éclaireront dans le cœur de nos auditeurs, notamment grâce à votre appel. Merci beaucoup, Pierre de Lauzin. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui s'appelle « La loi de la jungle » ou « Où ai-je mon papier ?» qui s'appelle...
Ni règne de la loi, ni loi de la jungle.
Oui, pardon, ni règne de la loi, ni loi de la jungle.
Voilà. Aux éditions Bolen.
Et bien commun aux éditions Bolen. Merci beaucoup, cher Pierre de Lauzin. Merci pour tout. Chers auditeurs, vous êtes bien sur Restons Courtois, l'émission de Radio Courtoisie. Je vous rappelle que Radio Courtoisie est une radio qui n'existe que par vos dons et la Providence. Elle ne dépend ni d'un groupe industriel, ni d'un milliardaire, et encore moins des subsides de l'État. Donc, si vous souhaitez que la radio continue d'exister et se développe, faites un don.